L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Thibaut van den Bosch, chargé de plaidoyer au Centre européen pour le droit et la justice, le CLJ, pour la défense des chrétiens persécutés dans le monde. Et aujourd'hui, dans le monde, la communauté chrétienne est la communauté la plus persécutée et de loin. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les chrétiens d'Égypte et une rencontre-conférence qui aura lieu au Monsterhof de Strasbourg le 20 juin de 14h à 21h. Quand on parle de rencontre, on aura le temps évidemment de rencontrer, d'assister également à des tables rondes, un moment nommé Liberté religieuse et solidarité chrétienne avec les chrétiens d'Égypte. Thibaut van den Bosch, bonjour.
Bonjour Valérie.
Ravi de vous accueillir.
Avec grand plaisir, merci pour votre invitation.
Alors, votre mission au Centre européen pour le droit et la justice, dont les bureaux sont ici à Strasbourg, tout proche du Parlement européen, je pense que ça a du sens.
Oui, tout à fait. Le Centre européen pour le droit et la justice, c'est une ONG chrétienne de protection des droits de l'homme, créée en 1998 ici à Strasbourg, pour travailler au service du droit, avec une vision chrétienne du droit, des droits de l'homme, au service des libertés, de la souveraineté, de la dignité humaine. Et dans cette ONG, je m'occupe en particulier de la défense des chrétiens persécutés, donc auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est ici à Strasbourg, auprès du Parlement européen. Et nous avons aussi des missions, des événements au Conseil des droits de l'homme à l'ONU à Genève.
Alors la communication autour des persécutions des chrétiens dans le monde pour la liberté des religions et notamment des chrétiens, le premier geste aujourd'hui, c'est la communication, parce que c'est souvent quelque chose qui est ignoré, qu'aujourd'hui les chrétiens sont la communauté la plus persécutée du monde. Alors évidemment, aujourd'hui, l'actualité, le Nigeria, le Soudan par exemple, l'Égypte aussi.
Oui, dans tous les cas, il faut s'informer. Il y a des degrés de discrimination, il y a des degrés de persécution. Portes Ouvertes fait chaque année un index annuel où il classe les pays qui persécutent le plus les chrétiens ou les pays où les chrétiens sont le plus persécutés, parce que parfois la violence ne vient pas de l'État, mais de la population, de groupes terroristes. Elle vient d'un système communiste en Chine, en Corée du Nord, en Érythrée par exemple, ou Nicaragua. Donc, on ne pourrait pas mettre tous les pays dans le même panier, c'est sûr. C'est très important de se rendre sur place ou de rencontrer des témoins qui peuvent nous parler de leur propre expérience, de leur propre vécu, de la réalité du terrain. S'informer, c'est le plus important. Analyser la situation ensuite. Et le propre de l'ECLJ, c'est de l'analyser sous le prisme du droit international des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'il y a de protéger dans la Constitution par rapport aux libertés d'association, liberté d'expression, liberté de religion, liberté de culte. Une fois qu'on a fait cette analyse, on en fait des rapports. Et ces rapports, on les communique au grand public, on les communique aux institutions, que ce soit les institutions européennes, les institutions internationales. Et c'est là que commence le plaidoyer. Donc un plaidoyer institutionnel, un plaidoyer médiatique, pour que tout converge, en fait, informer et demander des comptes ensuite aux institutions, ou en tout cas, que c'est demander à ces institutions qu'elles demandent des comptes au pays. Donc on joue comme ça sur plusieurs bandes, sur le long terme.
Aujourd'hui, concrètement, quelles sont les actions réelles qui peuvent être menées contre la persécution des chrétiens? Il y a un plaidoyer, on alerte évidemment les médias, les gouvernements des pays où a lieu effectivement des persécutions, voire des génocides pour certains pays. Est-ce qu'il y a une action? Est-ce qu'il y a un pouvoir réel d'entrave de ces persécutions dans des pays où les chrétiens sont persécutés? J'y arrive.
Oui, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas nous-mêmes de sanctions économiques possibles contre les pays qui persécutent les chrétiens ou alors qui laissent faire les persécutions de chrétiens. Nous avons seulement l'arme du droit, donc c'est en anglais du « soft power ». C'est du long terme, c'est pas du jour au lendemain une contribution pour l'ONU qui fera tout changer. Seulement, nous sommes une galaxie d'ONG chrétiennes engagées, donc il y a le Centre européen pour le droit et la justice, il y a aussi Solidarité chrétienne internationale. On est quelques ONG à protéger les chrétiens, et il y a beaucoup d'institutions différentes en Europe, mais aussi de taille mondiale, comme l'ONU, bien sûr. Et en fait, c'est la somme de toutes ces interventions dans toutes ces institutions. Donc on peut faire des déclarations écrites, des déclarations orales, des événements, des conférences, un plaidoyer direct auprès des gouvernements nationaux ou des parlementaires nationaux, mais aussi des parlementaires ici au Parlement européen. Et en fait, c'est la somme de toutes ces actions qui peuvent avoir des débouchés positifs. Par exemple, pour la libération de chrétiens au Pakistan, qui sont injustement accusés de blasphème, que faut-il faire ? En fait, on aimerait bien sûr que la loi sur le blasphème contre l'islam au Pakistan soit abrogée, ça serait la meilleure des choses. En attendant, chaque victoire se trouve dans la libération d'un chrétien, en fait. Et c'est ça qui nous réjouit, c'est qu'on avance avec des libérations donc, de chrétiens au Pakistan, mais aussi au Soudan, des esclaves chrétiens au Soudan, une victoire à la Cour européenne des droits de l'homme en ce qui concerne les chrétiens de Turquie également, parce que la Turquie fait partie du Conseil de l'Europe, et il y a beaucoup d'affaires de chrétiens contre la Turquie, parce que la Turquie a fait des ingérences dans la liberté d'association et dans la liberté de religion par rapport aux fondations arméniennes, grecques, même juives, qui datent de l'Empire ottoman. Donc il y a beaucoup à faire, et c'est vrai qu'on aimerait que la Turquie, d'un coup, d'un seul, protège, respecte ces minorités religieuses. En attendant, chaque petite victoire à la Cour est également finalement une grande victoire pour nous et pour ces communautés, et qui va dans le bon sens. Et donc le plaidoyer, le travail juridique institutionnel est très important, il ne faut pas le sous-estimer.
Vous avez une formation de juriste, d'avocat ?
Juriste, alors c'est ça, nous ne sommes pas des avocats, nous sommes des juristes, donc nous utilisons le droit, nous donnons des analyses juridiques, des contributions juridiques, nous intervenons en tant qu'amis de la Cour, par exemple, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, mais nous ne sommes pas des avocats, nous ne plaidons pas nous-mêmes des affaires de bout en bout, au service d'une victime en particulier, même si nous appuyons sur leur mécanisme de victime pour personnaliser un phénomène plus large, une persécution plus large. Il faut très souvent se baser sur le témoignage concret, direct, mettre en avant, et c'est triste de le dire ainsi, mais mettre en avant une personne qui acceptera de se rendre publique. Ça, c'est vraiment pas facile, pas évident. Mais sur cette personne qui acceptera de rendre publique la persécution qu'elle subit, on pourra dire, voilà, cette personne est représentative d'une persécution systémique dans tel ou tel pays. Et donc c'est cette utilisation du droit que nous faisons, sans être nous-mêmes des avocats.
Et vous avez les moyens, après, cette personne, de la mettre à l'abri ?
Oui, parce qu'en fait, on peut donner son témoignage et la nommer auprès de l'institution, tout en demandant à cette institution de ne pas rendre
rester
public.
Rester discrète, voilà, dans
le pays.
Voilà, c'est
ça, rester discrète, ça c'est tout à fait possible. Ça dépend de ce que veut la victime, tout à fait.
Thibaut van den Bosch, ce samedi 20 juin à Strasbourg, une présentation donc de la conférence, de la rencontre-conférence. C'est important, rencontre, hein, parce que l'idée, c'est quand même que c'est un long après-midi, et c'est l'idée d'échanger et de rencontrer et des Égyptiens chrétiens, mais également des spécialistes dans tout un tas de domaines. Alors, c'est organisé par CSI, pour Christian Solidarity International. En quelques mots, juste nous présenter cette association.
Alors, Solidarité Chrétienne Internationale, oui, c'est une association très intéressante parce qu'elle est interconfessionnelle, œcuménique, et elle allie une aide humanitaire de terrain avec des partenaires locaux pour aider concrètement sur le terrain les chrétiens un peu persécutés, au plaidoyer institutionnel, protection des droits de l'homme. Donc elle joue sur ces deux volets, ce qui est assez rare dans le système, en tout cas des ONG. Soit c'est humanitaire, soit c'est plaidoyer des droits de l'homme. Là, c'est les deux ensemble. Donc c'est tout à fait complémentaire. Et il y a un système d'organisation avec un CSI international qui fait le plaidoyer à l'ONU, par exemple. Et puis après, il y a des CSI nationaux. Donc, par exemple, il y a CSI France, CSI Suisse, CSI j'en passe. Voilà, dans différents pays du monde. Et là, cette rencontre se passe à Strasbourg. Il y a une longue histoire à Strasbourg parce que ça remonte à 1979. CSI France a été fondée ici en Alsace par un prêtre catholique, le père Paul Umbrecht. Et donc il y a une longue histoire, une longue implantation, et donc c'est tout naturel que cet événement se passe à Strasbourg, où il y a aussi une réputation de plaidoyer d'ONG chrétienne ou d'institution ici à démarcher à Strasbourg. Et c'est la première rencontre de ce type, mais il y en aura d'autres, et c'est un événement qu'on veut annuel. Et c'est très important ce que vous disiez par rapport au fait que c'est un événement rencontre-conférence, parce qu'il y aura des tables rondes, il y aura des témoins, des experts. Et le but, c'est de partager sa propre expertise, son propre témoignage, son propre vécu, de ne parler que de choses qu'on connaît vraiment, de ne pas se faire le porte-parole de tel ou tel chrétien persécuté alors qu'il ne l'est pas vraiment. Le but, c'est de vraiment de se fonder sur le réel et puis d'échanger les expertises, parce que finalement, parfois, on avance un peu dans nos couloirs respectifs, les différentes ONG chrétiennes de protection des chrétiens persécutés. C'est une saine émulation, je le reconnais. Chacun, on essaie de faire le meilleur pour aider au mieux les chrétiens. Mais parfois, on pourrait aussi apprendre les uns des autres, se rencontrer davantage. Et là, le but, c'est donc de faire rencontrer non seulement différentes ONG chrétiennes, avec différents responsables religieux chrétiens, et le tout dans une fraternité aussi œcuménique toujours.
C'est un domaine que vous connaissez bien. Vous avez vécu au Moyen-Orient. Vous y avez rencontré votre épouse en Égypte. Une chrétienne égyptienne, on appelle ça les coptes, c'est ça?
Oui, exactement, et je serais content que vous souligniez ce point, parce que j'ai une histoire tout à fait personnelle avec les chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient, c'est des églises qui remontent en fait au premier siècle de l'Église, c'est des descendants des apôtres. Et les coptes, en effet, donc c'est l'Église d'Égypte, fondée par saint Marc, au même titre en fait que l'Église catholique a été fondée par saint Pierre, c'est devenu l'Église latine. Mais en fait, il y a une galaxie d'églises orthodoxes, que ce soit les Coptes, les Arméniens, les Éthiopiens, mais également tous nos frères grecs orthodoxes, les orthodoxes russes, ukrainiens, roumains, le patriarcat d'Antioche, le patriarcat de Constantinople, le fameux patriarche Bartholomée. Donc il y a toute une galaxie d'églises orthodoxes qui évoluent dans l'Europe orientale ou au Moyen-Orient de manière générale. Et c'est cela que j'ai voulu servir avec l'œuvre d'Orient. Je suis d'abord allé en Irak, et puis après je suis allé en Égypte. En Égypte, j'étais professeur dans une école qui s'appelait le Collège de la Salle, une école des frères des écoles chrétiennes. J'étais un an professeur de français, donc auprès de petits écoliers égyptiens. Donc c'est très intéressant parce que, grosso modo, la proportion dans ces écoles, c'est 30% de chrétiens. 70% de musulmans. Or, dans la population, les chrétiens sont moindres, ils sont peut-être 15%. Donc, je dirais, les chrétiens sont surreprésentés dans ces écoles, certes, mais ce n'est pas réservé aux chrétiens. Et c'est là où la fraternité se noue, se tisse entre chrétiens et musulmans.
L'importance de cette mixité.
Exactement. Et mon épouse est donc issue aussi de ce système d'écoles catholiques francophones en Égypte. Elle était chez les Sœurs de la Charité de Besançon, fondée par Sainte Jeanne Antide Touré. Donc elle a passé toute sa scolarité dans une école de sœurs au Caire. Et après, elle a travaillé chez les Dominicains, à l'Institut Dominicain d'études orientales au Caire. Et c'est là où je l'ai rencontrée. Et elle a la particularité, la spécificité, j'ai vraiment hâte qu'elle nous en dise davantage lors de cette journée du 20 juin. Elle est copte, mais aussi, de par sa famille, elle est grecque orthodoxe. Donc elle a ce double aspect, cette double appartenance à l'Église orthodoxe plurielle. Sachant que la plus grande partie, la grande majorité des chrétiens d'Égypte sont bien entendu des chrétiens coptes orthodoxes.
Et il est question aujourd'hui de discrimination ou de persécution pour les chrétiens égyptiens ?
Non, ça serait complètement déconnecté de parler de persécution. C'est vrai qu'il y a eu des troubles, notamment sous la période des frères musulmans. Donc à partir de la révolution, les années 2010, 11, 12 et quelques, en fait jusqu'à l'arrivée au pouvoir du maréchal, du président Sissi maintenant. En fait, il y a une période de troubles terribles où c'était l'instauration d'un régime islamiste en Égypte contre les chrétiens. Depuis la venue au pouvoir du président Sissi, je dirais qu'il y a quand même une grande avancée en faveur des chrétiens d'Égypte. Il a bien compris qu'il fallait mettre en avant une identité égyptienne au-delà d'une identité arabe ou musulmane. Et en mettant en avant l'identité égyptienne du pays, il a fait par exemple la grande parade des pharaons pour les amener au musée des civilisations égyptiennes à Fustat. Il a mis en avant l'identité égyptienne, il met en avant l'apprentissage des hiéroglyphes à l'école, l'étude de l'arabe, mais à travers des poèmes d'avant l'islam. Et pour les chrétiens, il a dit les chrétiens sont avant tout des égyptiens. On est d'abord égyptien, puis on est chrétien ou musulman. Et en fait, il a réussi à petit à petit à changer la mentalité dans la population. C'est admirable. Et j'ai quelques exemples concrets positifs. La régularisation des églises, c'est vrai qu'en fait, il y a une telle poussée démographique des chrétiens en Égypte, la population de chrétiens a grandi, qu'ils construisent des églises. Et en fait, pendant tout un temps, il y avait des réglementations strictes pour la construction d'églises. Ils n'étaient pas autorisés à les construire. Ça suscitait des tensions dans la population, surtout en Haute-Égypte. Il y a aussi des problèmes d'enlèvement de jeunes filles, je le reconnais, de jeunes filles coptes qui sont enlevées pour être converties de force, mariées à des musulmans. Cela arrive aussi. Mais il y a un effort de régulariser cette situation, de protéger les chrétiens, de régulariser, par exemple, des 3800 églises en 10 ans. Là, ça, c'est très positif. Lorsqu'il y a eu les martyrs coptes de Libye, en 2015, dès le lendemain, en fait, le gouvernement de Sisi a bombardé les positions de l'État islamique en Libye pour venger les chrétiens coptes. Et ça, c'est des signaux, je trouve, positifs dans toutes les nouvelles villes, parce que maintenant, l'Égypte a 110 millions d'habitants. C'est incroyable, les villes se construisent dans le désert. Et dans chaque nouvelle ville, il faut une mosquée et une église.
Et une église.
Voilà, donc ça, c'est vraiment des signaux positifs dans un pays entouré par les guerres, entouré par des guerres où des pays où les chrétiens vivent en difficulté réelle, l'Égypte offre une région de stabilité, de protection des chrétiens, où c'est pas si facile, évidemment. Par exemple, abandonner l'islam, c'est toujours difficile. Peut-être pas tant d'un point de vue de la loi civile, mais en tout cas, d'un point de vue de la société,
de la culture, de la pression sociale,
exactement. Voilà, après, ça, c'est important, en tout cas, de se rendre sur place. On a parfois l'idée d'un Moyen-Orient encore qui vit sous les bombes ou sous les attentats, et c'est vrai qu'il y en a eu à une certaine période, surtout dans les années 2010. Maintenant, la situation va mieux. Moi-même, j'y habitais 5 ans, et je suis toujours présent. J'ai ma belle famille qui vit en Égypte et qui y est toujours présente. Et chaque confession, oui, peut vivre sa foi. Il y a des coptes, il y a des grecs, il y a des protestants. Tout le monde est libre de vivre sa foi. Et vraiment, c'est une situation que j'aimerais partager avec mon épouse également, pour que les gens découvrent un peu plus la réalité au-delà des pyramides et des pharaons.
Et ça fait partie, ça, des témoignages que vous allez livrer le 20 juin au Monster Off à Strasbourg.
Exactement, parce qu'en fait, l'un des objectifs de cette journée, c'est d'informer et de rendre visible la réalité des persécutions. Mais parfois, si ce n'est pas une persécution, il faut le dire aussi. Ou parfois, c'est une persécution plus ancienne. Par exemple, on aura aussi une chrétienne roumaine qui est l'épouse du prêtre Basile Molnar. Donc, elle s'appelle Juliana, qui nous parlera de l'église roumaine. Et à notre époque, peut-être que ça paraît insignifiant, mais ce serait important parce qu'elle va nous partager qu'est-ce qu'était l'église roumaine sous le temps du communisme. Et en fait, ça va nous faire une perspective historique très, très intéressante pour peut-être mieux comprendre ce qui se passe au Nicaragua, en Chine ou en Corée du Nord. Donc ça, c'est très important d'informer, de permettre des rencontres incarnées, des témoins internationaux pour finalement avoir une communion spirituelle. Nous sommes des chrétiens d'Occident, je dirais, j'ose dire, dans notre confort. On est au chaud, à Strasbourg. Certes, il y a des actes anti-chrétiens, il y a des attaques d'église, du vandalisme. Et ça, on le combat aussi, bien sûr. Mais je veux dire, notre situation est un peu plus confortable qu'ailleurs, au Nigeria, par exemple, ou au Soudan. Et c'est pour cela que c'est important de montrer, nous, en tant que chrétiens d'Occident, de nous informer et de montrer notre communion spirituelle avec les chrétiens qui souffrent ailleurs dans le monde, et de se mobiliser aussi, donc, par la prière, par l'action de terrain, peut-être par faire des quêtes, soulever des fonds pour aider nos frères chrétiens dans le monde. Et c'est donc aussi un objectif de cette journée, de structurer une communauté de soutien, sous toute forme d'ailleurs, mais structurer une communauté de soutien pour aider les chrétiens persécutés.
Cette rencontre conférence, elle est ouverte à tous?
Oui, tout à fait.
C'est sur inscription?
Non, une inscription, c'est toujours la bienvenue, c'est vrai, pour qu'on ait une idée du monde. Vous pouvez envoyer un mail à info@csi-france.fr. Ça, c'est toujours bien de vous annoncer, mais ce n'est pas obligatoire. C'est au Monster Off à 14h. Et donc, c'est la salle paroissiale de la cathédrale de Strasbourg. Et c'est tout à fait ouvert à tous, que quelle que soit votre confession, même si vous n'avez pas de confession, si vous êtes intéressé à la solidarité envers les chrétiens, si vous êtes intéressé aussi à une ouverture géopolitique aussi pour votre culture personnelle, pour voir des, je dirais aussi, j'insiste là-dessus, des vrais témoins, des vrais experts. On n'a pas là des gens qui savent dire peu de choses, mais sur tous les sujets, on a des experts. Monseigneur Marco Ganchi, par exemple, nous parlera des interventions du Saint-Siège pour défendre la liberté religieuse. Et voilà, on aura Guillaume Guénec de Portes Ouvertes. Moi, je représenterai le Centre européen pour le droit et la justice. Angélique Gourlet, donc la présidente de Solidarité chrétienne internationale, parlera aussi de cette association. On aura Joël Venkamp, le directeur du plaidoyer de Solidarité chrétienne internationale à l'international auprès de l'ONU. Donc, voilà, on va chacun partager son expérience, partager son vécu, et c'est ça qui fera la force de cet événement, tout en vraiment marquant l'importance de cette communion spirituelle, en ce sens où nous aurons aussi un prêtre grec orthodoxe et un prêtre catholique qui vont nous donner un éclairage spirituel sur la persécution des chrétiens ailleurs dans le monde, et ce que nous pouvons faire d'un point de vue de notre foi ici en France. C'est pour ça que toutes ces dimensions réunies, ça fera de cet événement un événement, une rencontre en fait très importante.
Le rendez-vous est pris, c'est le samedi 20 juin de 14h à 21h. On peut picorer également, venir se rendre à une conférence plutôt qu'à une autre. Donc c'est une rencontre, conférence. Liberté religieuse et solidarité chrétienne avec les chrétiens d'Égypte. C'est au Monster Off, 9 rue des Juifs, à Strasbourg. Thibaut Vandenbosch, merci beaucoup d'être venu nous en parler.
Merci beaucoup, Valérie.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.